France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, mieux valait ne pas s'appeler Œdipe. Ça ne portait pas chance. Les parents devraient faire attention quand ils donnent un nom. Vous le portez toute votre vie, sans savoir ce qu'il veut dire, et un jour, ça vous tombe dessus. Vous comprenez d'un coup pourquoi vous avez ce nom. Ça peut être dramatique. Vous ne vous en remettez pas, c'est ce qui est arrivé à Œdipe. Œdipe, en grec oïdipus, ça veut dire qui a les pieds gonflés. Pous, comme pied, et oïdi, comme œdème, gonflement. Vous le voyez bien que vous avez les pieds tout gonflés, dès la naissance. Vous le voyez tous les jours. Ce n'était pas la peine de le faire remarquer, de le dire avec un nom. Ces pieds bizarres, ça vous rend pour toujours différent des autres, ça vous marque. Comme si vous n'existiez que par ces pieds difformes. Vos amis, eux, s'appellent Agénor, le chef, Euphorbe, le prospère, Lycophontès, tueur de loups, Mélanippe, au cheval noir. C'est beaucoup plus noble, plus positif, mais Œdipe, pieds gonflés.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Et peut-être que les parents ont essayé de dire quelque chose avec ce nom. Peut-être qu'ils n'ont pas seulement voulu faire remarquer des pieds qui n'étaient pas normaux, pas beaux. Si un enfant a des pieds gonflés, c'est qu'il est marqué. Ce qu'il a aux pieds est tellement étonnant que ça doit bien vouloir dire quelque chose d'extraordinaire. Cet enfant n'est pas normal. Au sens qu'il a sans doute quelque chose à voir avec les dieux. Les dieux l'ont marqué, on ne sait pas pourquoi. Mais cette marque au pied montre qu'il n'aura pas une vie normale, ordinaire, alors que les Agénor, les Euphorbes ou les Mélanippes pourront vivre une vie bien conforme, standard. De fait, le destin de cet Œdipe est incroyable. Les dieux l'accompagnent toujours, dès la naissance, pas forcément pour son bonheur. Ils ne le lâchent jamais. Et d'abord, les parents d'Œdipe n'étaient pas ses parents. Il a été adopté. Ceux qui lui ont donné ce nom, Œdipe, ne sont pas ses parents d'origine. Mais le couple qui l'a accueilli, qui l'a élevé, des gens très bien, le couple royal qui régnait sur la ville de Corinthe, ou de Sicyone selon les légendes. Des gens qui portaient des noms normaux, Polybos, Polybe pour le père adoptif, à savoir homme aux nombreux pâturages, et pour la mère, Méropée, sans doute du nom d'un oiseau. Un jour, ils ont vu apparaître ce bébé aux pieds gonflés. Ou bien un de leurs bergers le leur a apporté depuis la montagne. Ou bien, selon une autre histoire, le petit est arrivé par la mer dans un coffre qui flottait à la dérive. Méropée, l'épouse de Polybe, l'aurait découvert alors qu'elle lavait son linge sur le rivage. Il y a un côté Moïse chez Œdipe. Ce bébé était une bénédiction. Le couple royal, Polybe et Méropée, n'avaient pas d'enfants et la fortune, à savoir les dieux, leur en a apporté un. En plus, il avait cette marque étonnante au pied. Cela indiquait un destin exceptionnel. Il le sera. Pendant longtemps, jusqu'à ses 17 ans environ, Œdipe croira que Polybe et Méropée étaient ses parents de naissance. Mais un jour, un accident, un mot malveillant entendu lors d'un banquet, « espèce de bâtard », va créer un choc. Œdipe voudra à tout prix savoir d'où il vient. Ce sera le début d'une immense réussite, d'une grande gloire et d'un malheur vraiment triste. Nous suivrons sa longue histoire en deux temps. Œdipe le bienheureux, puis Œdipe le damné. D'où venait cet Œdipe? Pourquoi ses parents d'origine l'ont-ils abandonné? C'est une longue histoire. Elle n'est pas très facile à raconter, car, comme pour beaucoup de mythes célèbres encore aujourd'hui, nous n'avons pas de textes très anciens qui nous donnent des détails, comme sont anciens ces poèmes que sont l'Iliade, l'Odyssée d'Homère ou la naissance des dieux, d'Hésiode. Nous savons qu'il y a eu des épopées sur la famille d'Œdipe et sur la ville de Thèbes, l'Œdipodie et la Thébaïde. Ces épopées dataient plus ou moins de l'époque d'Homère et d'Hésiode, mais nous les avons perdues. Nous savons qu'il y a eu des tragédies sur Œdipe au 5e siècle avant Jésus-Christ. Échille, Sophocle et Euripide ont tous les trois consacré une tragédie à Œdipe. Mais il ne nous en reste qu'une seule, celle de Sophocle, Œdipe roi. Nous savons qu'il y a eu en Grèce, puis à Rome, énormément de pièces de théâtre parlant d'Œdipe. Même Jules César, poète à ses heures, a écrit sa tragédie, Œdipe. Mais il ne reste rien de tout cela à part des bribes et une tragédie du poète-philosophe Sénèque. Sinon, il y a eu pendant l'Antiquité une foule de notices en prose, de compilations plus ou moins tardives, sur plusieurs siècles, en grec et en latin. Ces résumés succincts ont été écrits, cités, repris, discutés par des savants de l'Antiquité. Mais on ne sait pas vraiment sur quelle tradition plus ancienne elle s'appuyait. Qui étaient les parents d'Œdipe à sa naissance? Ça, au moins, on le sait. Son père et sa mère d'origine régnaient sur la ville de Thèbes, une ville grecque magnifique, merveilleuse, Thèbes aux sept portes, la ville grecque par excellence. Nous l'avons visitée il y a 2 semaines. Thèbes était couronnée d'un rempart très célèbre. Ses murs avaient été construits par un musicien d'origine divine qui jouait de sa lyre et déplaçait les pierres par sa musique. La ville elle-même a été fondée par un héros venu de très loin, de Phénicie, ce serait le Liban actuel, Cadmos. Il avait planté dans le sol les dents d'un dragon qu'il avait pris au préalable soin d'Oxyre, un dragon qui occupait les lieux. Des dents de ce dragon sont nées des guerriers tout armés. Ils ont commencé à s'entretuer, mais 5 ont survécu. On les appelait les hommes semés. Ils ont donné naissance aux grandes familles de Thèbes, une ville autochtone, comme on dit, c'est-à-dire née de son propre sol. Le père, Laios, était un descendant direct de ce Cadmos. La mère Jocaste, Iocaste ou Épicaste selon Homère, descendait de l'un de ces hommes semés. Le couple représentait toute l'histoire de la ville. Ce Laios a eu une histoire très mouvementée, très controversée. Selon plusieurs poètes, c'est cette histoire qui explique pourquoi toute sa famille a été maudite, pourquoi elle a accumulé désastre sur désastre pour lui, Laios, pour Jocaste, son épouse, pour Œdipe et ses enfants, dont la très vive et très déterminée, Antigone. Il faut dire que ce Laios portait un nom qui ne lui portait pas chance. Laios veut dire « le gauche ». Et de fait, il a tout fait de travers. Les gauchers reconnaîtront là un mauvais préjugé qui remonte à l'Antiquité. En français, le nom Laios a pris un sens complètement différent. Il a donné le mot laïus, à savoir un discours interminable dont on se passerait bien, faire un laïus. Alain Rey, le linguiste qui nous racontait des merveilles avec sa science solide, nous dit dans le dictionnaire Le Robert que cela remonte à une épreuve du concours d'entrée à l'école polytechnique en l'an 1804. On avait demandé aux candidats pour l'épreuve littéraire d'écrire un discours sur Laïus, le père d'Œdipe. Le nom Laios avait été latinisé. Ils rendirent des copies longues et longues. Depuis, on dit faire un Laïus et on employait le verbe laïusser ou le nom un laïusseur, mot qu'on pourrait réutiliser. Bon, restons grecs. Laios, le gauche, était, dit-on, criminel, déviant, inconséquent. Cela expliquerait pourquoi Laios et Jocaste ont dû abandonner leur petit enfant, qui sera adopté par le couple royal de Corinthe et qui deviendra Œdipe. Ce Laios, pour des raisons obscures, flottantes, a été chassé de Thèbes, la ville où il devait régner, puisqu'il était un descendant de Cadmos, le fondateur de la ville. Chassé de Thèbes, Laios se réfugie dans la ville d'Argos, chez le roi Pélops, qui l'accueille à bras ouverts. Vous vous souvenez peut-être de ce Pélops. Il est le fils de Tantale, cet extravagant qui avait commencé à faire cuire son fils Pélops dans un chaudron et qu'il avait donné à manger aux dieux de l'Olympe pour se moquer d'eux. Les dieux écœurés ont sauvé ce Pélops in extremis. Après cette mésaventure paterno-culinaire, il règne sur la ville d'Argos. Pélops est heureux en apparence. Il a épousé la très belle Hippodamie et il a 2 fils qui ont fait beaucoup parler d'eux. Les inénarrables Atrée et Thieste. Mais avant ses fils, il a eu un fils d'une autre femme. Parfois on dit que c'était une nymphe. Ce fils s'appelait Chrysippe, Chrysippos, à savoir cheval d'or. Le roi Pélops, son père, voulait que cet enfant Chrysippe ait les qualités qui correspondent à son nom, qu'il soit un bon homme de cheval, qu'il puisse gagner des courses avec ses chars. C'était une des activités les plus nobles pour les fils de roi. Pélops lui-même avait gagné sa gloire et sa femme Hippodamie, dont le nom veut dire la dresseuse de chevaux, en gagnant une course de chars légendaire qui a été à l'origine des Jeux Olympiques. Voyant Laios arriver chez lui, Pélops lui confie la formation équestre de son fils Chrysippe. Mais voilà, Laios tombe amoureux du jeune garçon. Et un jour, il l'enlève, lors d'une course de char, et il le violente. On dit que c'est le premier cas de pédophilie dont se soit rendu coupable un mortel. Chrysippe, après ce choc, se serait suicidé. Pélops, son père, devint furieux. Il maudit Laios. Il demande au dieu que Laios ne puisse pas avoir d'enfant, ou que si un enfant venait à naître de lui, que cet enfant le tue. C'est la seconde option que les dieux vont réaliser. Laios aura un fils, Œdipe, qui le tuera.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe.
Fast young girl wants to go, body's red, mouth is whole. Got the worst in the world, but this won't be hassle free. Lover's kiss in the heat, body crush, basement sweet. Mind my eyes behind my hair, hide my face and look nowhere. Change of dresses, ditch that guy. Don't pick up when it calls. Run away every day. Coffee, beans, and hideaways. They want these, they want those. First my nose, then my toes. Presidents and super freaks. Lighted dogs and love boutiques. Afternoons waking up. Neighborhood slouching stuff. Drifters too, in a flow. Nowhere they got to go. Stand her girl with a dog. Dressing cool, not too new. I wanna talk, I wanna know what she feels and what she knows. I'm so fucking alone. I'm so fucking alone. Okay, okay. This is me. This is me. Evening breeze, river east. Music mix, salsa speed. Metal rap, lonely sax. Open Jeep with the speakers back. Rock and roll band practicing. Shaking those walls next to me. Everybody's in a dream of what they want and who they need. To feel alright, to be alive. Wipe out words that they despise. From a thunder brain that's quick to pain and only wants to live again. When that setup gets in the way, the dreaming brain will make a play to wipe it all out of space. Press record and then erase. Cause there's something here they gotta face. Everybody in this place, it's the same for everyone. They got to figure out something. They got to figure out themselves. They got to figure on their own. They got to figure out, okay, 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 okay. Okay.
she wanted. I'm not even sure what she wanted. What she wanted. What she wanted.
Pierre Judet de la Combe parle d'Œdipe.
What she wanted.
Le bienheureux.
Il y eut plein de versions de cette histoire de Laios et du jeune Chrysippe. Elle varie énormément et réserve des surprises. Selon une version, Chrysippe ne se tue pas. C'est la femme de Pélops, Hippodamie, qui s'en charge. Elle n'a aucune envie que ce Chrysippe reste en vie. Pas à cause de ce que lui a fait Laios. Ça la laisse totalement indifférente. Elle craint que Chrysippe, dont elle n'est pas la mère, n'accapare l'affection de son père Pélops et ne prive de leur royaume ses propres fils, Atrée et Thieste. Une nuit, elle entre dans la chambre de Chrysippe et le voit allongé à côté de Laios. Ce Laios avait son épée à côté de lui. Ce n'était pas prudent. Hippodamie voit l'épée, s'en sert, transperce le corps de Chrysippe, il laisse l'épée, puis s'en va. Tout accuse Laios, mais avant d'expirer, Chrysippe a le temps de disculper Laios. Avec cette version de l'histoire, on ne voit pas bien pourquoi Laios et toute sa descendance ont été maudits. Mais bon, les auteurs de mythes font ce qu'ils peuvent. Ils font varier le mythe en fonction de ce qu'ils pensent de l'amour des jeunes garçons, dont Laios serait l'inventeur pour les humains. Zeus et Poséidon l'avaient précédé. Une autre version tente d'expliquer le lien entre l'amour de Laios pour le jeune homme et la mort de Laios, tué par son propre fils Œdipe. Cette version très étrange se trouve dans un commentaire ancien à une tragédie du poète Euripide. C'est un vrai scoop. Écoutez, ça surprend. Laios, selon cette version, était amoureux du jeune homme Chrysippe. Soit, on le savait déjà. Mais Œdipe, son fils, était lui aussi amoureux de ce Chrysippe. D'où un conflit. Œdipe supprime son rival. Il tue son père. En quelles circonstances? On ne sait pas. Si les psychanalystes prennent enfin au sérieux cette tradition antique, ils vont devoir travailler ferme. Il leur faudra élaborer une variante à leur complexe d'Œdipe. Il n'y a pas que les mamans au monde pour qu'on veuille, consciemment ou non, remplacer son père. On est en plein brouillard avec cette histoire de Laios et de Chrysippe. Toujours est-il que Laios doit quitter la ville de Pélops. Il finit par revenir à Thèbes et devient roi de sa ville. Sa femme, Jocaste, et lui n'arrive pas à avoir d'enfant. Laios fait alors ce qu'on fait d'habitude dans ce cas. Il va consulter l'oracle d'Apollon à Delphes et il lui demande comment avoir une descendance. La réponse du dieu Apollon est très sèche, menaçante. Encore une fois, nous en avons plusieurs versions. Dans l'une, Apollon rappelle la malédiction de Laios par Pélops. Laios doit s'attendre au pire, qui est inévitable.
Laios, fils de Labdakos, tu demandes une famille heureuse en enfant. Je vais te donner un fils. Mais le destin veut que tu quittes la lumière par la main de cet enfant. Ainsi l'a approuvé Zeus d'un hochement de sa tête. Les glaçantes malédictions de Pélops l'ont convaincu. Tu as enlevé son fils. Pélops te voue à tout cela.
Euripide, le poète tragique, donne une autre version de l'oracle d'Apollon. Le dieu laisse encore un espoir. Laios peut éviter d'être tué par son fils tout simplement s'il évite de faire un fils, puisqu'il n'en a pas encore. C'est logique. L'oracle d'Apollon est un avertissement, pas une prédiction rigide. L'avenir pour Laios est encore ouvert.
Ô seigneur de Thèbes, la ville des beaux chevaux, n'ensemence pas le sillon de l'enfantement, ne va pas contre les dieux. Si tu mets au monde un enfant, celui qui naîtra te tuera, et toute ta maison s'en ira dans le sang.
Ayant entendu un tel oracle, Laios et Jocaste auraient dû s'abstenir de faire un enfant ou de risquer d'en faire un. La catastrophe aurait été évitée. Mais Laios, en était-il capable? On l'a vu avec l'amour pour le jeune Chrysippe. Laios n'est pas homme à savoir dominer ses désirs. Un jour, il a trop bu et couche avec sa femme Jocaste. Eschyle, le poète tragique, évoque la scène en des termes poétiques très choisis. Il parle d'irréflexion amoureuse, pour dire le désir non contrôlé de Laios.
Mais vaincu par l'irréflexion amoureuse, Laios engendra sa propre mort, Œdipe, parricide. Une démence tueuse d'entendement réunissait les époux.
Après cette folie amoureuse, un petit garçon vient à naître. Que faire ? Ce qu'on fait d'habitude en telle occasion. On envoie l'enfant à la mort. Par exemple, en l'exposant tout seul, sans défense, dans une nature sauvage où les bêtes le mangeront. C'est la version la plus connue du mythe. Laios et Jocaste, plutôt paniqués, demandent à un de leurs bergers d'emporter le petit enfant et de l'abandonner sur les hauteurs désertiques du mont Cithéron, qui est près de Thèbes. Les animaux se chargeront d'éliminer le petit. Le berger prend l'enfant. Pour le porter, il perce les pieds du petit et les attache à un bâton. Voilà pourquoi l'enfant aura les pieds gonflés. Le berger n'accomplit pas sa mission. Il est pris de pitié. Il rencontre sur les estives un autre berger qui y menait ses moutons ou ses chevaux. Ce berger travaille pour le roi de Corinthe, une ville plus au sud. Comme le roi de Corinthe, Polybe n'a pas d'enfant et en voudrait un, ce second berger prend le bébé et le porte jusqu'à Corinthe. Le roi Polybe et la reine Mérope accueillent avec bonheur cette surprise du ciel, ce don des dieux. Ils lui donnent le nom d'Œdipe. Parfois, on dit que seule Mérope accueillit l'enfant et qu'elle fit croire à son mari, Polybe, qu'il était de lui. On ne sait pas. En tout cas, Œdipe devient leur enfant. Des années heureuses s'écoulent. Mais ce bonheur va chanceler. Dans sa tragédie Œdipe roi, la seule sur l'histoire d'Œdipe que nous ayons conservée, le poète Sophocle raconte comment un jour, à Corinthe, le jeune Œdipe a été choqué, puis rongé d'inquiétude, quand, lors d'un banquet, un convive qui avait trop bu a proféré qu'il n'était pas le fils de son père. Jusque-là, il était heureux, honoré, mais ce mot entendu, « bâtard », a tout gâché.
« Mon père était Polybe, de Corinthe. Ma mère Mérope, de race dorienne. Je passais pour le plus considérable des habitants de cette ville quand m'arriva ce coup-là que je vais dire, qui méritait certes qu'on s'en étonne, mais qui ne méritait pas la passion que j'y ai mise. Dans un festin, un homme qui avait trop bu, emporté par l'ivresse, me donne dans le vin un nom, pour signifier que je n'étais pas le fils de mon père. J'en fus accablé, et ne réprimai la chose qu'avec peine durant ce jour-là. Le lendemain, je me rendis auprès de ma mère et de mon père pour voir clair, et eux, ils ressentaient lourdement l'outrage, s'emportant contre l'homme qui avait lâché le mot. Moi, j'avais beau être content de leur attitude, la chose ne cessait pas de me travailler. Elle s'insinuait avec force au-dedans de moi.
Avec cette réaction forte, violente, Œdipe commence à montrer qui il est. Il est plein de passion, emporté, et il veut comprendre à tout prix ce qui lui arrive. Homme d'énergie incontrôlée et homme de savoir en même temps. Le seul moyen de savoir ce qu'il en est d'aller poser la question au dieu omniscient de Delphes, Apollon. Œdipe y va, en cachette de ses parents. Ce voyage sera fatal. Arrivé à Delphes, Œdipe demande au dieu Apollon, ou plutôt à ses prêtres, qui transmettent la question à la Pythie, la porte-parole du dieu, s'il est bien le fils de Polybe et de Mérope. Comme très souvent, le dieu répond à côté de la question. C'est pour ça qu'à Delphes, on appelle ce dieu l'oblique, en grec l'oxias. Apollon lui annonce qu'il couchera avec sa mère et qu'il tuera son père. Apollon est très direct, très explicite.
Apollon, le splendide, aux questions pour lesquelles j'étais venu, me congédia sans m'honorer d'une réponse. Il flamboya dans d'autres paroles qui annonçaient misère, horreur, infortune. Que j'allais faire l'amour avec ma mère et donner à voir une race dont le monde ne supporterait pas la vue, et que j'allais être l'assassin du père qui m'avait fait.
Tout ce qu'annonce Apollon est vrai, va se réaliser. Mais de quelle réalité s'agit-il ? Comment Œdipe pouvait-il comprendre cet oracle ? Quel sens ont les mots « ma mère » ou « le père qui m'a fait » ? Apollon le fourbe ne dit pas que ces mots posent problème, que le père et la mère d'Œdipe ne sont pas ceux qu'Œdipe croyait. Œdipe est venu à Delphes parce qu'il avait peur de ne pas être le fils de ses parents. L'ivrogne du banquet lui avait mis un doute dans la tête. Mais le doute va se changer en une terreur, nouvelle, totalement imprévue. Le dieu, en parlant de mère et de père, fait comme si ces mots étaient clairs, évidents. Mais il fait naître dans la tête d'Œdipe une peur vraiment affolante. La peur que ne s'accomplissent les monstruosités que le dieu a prédites, l'inceste, et le parricide. Œdipe, terrifié, perd en fait de sa lucidité. Il ne s'interroge pas sur le sens de la réponse qu'il a obtenue du dieu et s'éloigne précipitamment de Corinthe, de la ville où habitent ceux qu'il prend encore pour sa mère et son père. Rester près d'eux serait trop dangereux.
Œdipe ne devait pas exister, et pourtant il existe. C'est-à-dire, son père a commis une faute terrible, il a violé un enfant, et parce qu'il a violé un enfant, Apollon lui interdit d'avoir un enfant à son tour.
Wajdi Mouawad.
Quand Apollon interdit à Laios d'avoir un enfant, ce qu'il lui dit en substance, en creux, il lui dit « tu devais avoir un enfant ». Donc potentiellement, il y a un enfant qui existe, qui est le tien. Eh bien, cet enfant qui aurait dû exister ne doit pas exister. Donc. Mais pourtant, Laios va faire exister cet enfant. Mais Œdipe ne le sait pas. Œdipe est celui qui n'aurait pas dû exister, mais qui l'ignore. Et qui devient dépositaire d'un héritage dont il va être dans sa chair le porteur. Il va le porter, il va le vivre, il va être traversé par cet héritage qui n'est pas le sien, mais dont il devient le dépositaire.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Et la nuit, peu à peu, et le temps arrêté, et mon cheval boueux, et mon corps fatigué. Et la nuit, bleu à bleu, et l'eau d'une fontaine, et quelques cris de haine versés par quelques vieux sur de plus vieilles queues, dont le corps sans sommeil. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Et mon cheval qui boit, et moi qui le regarde, et ma soif qui prend garde qu'elle ne se voit pas. Et la fontaine chante, et la fatigue plante son couteau dans mes reins, et je fais celui-là qui est son souverain. On m'attend quelque part, comme on attend le roi, mais on ne m'attend point. Je sais depuis déjà que l'on meurt de hasard en allongeant le pas. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Il est vrai que parfois, près du soir, les oiseaux ressemblent à des vagues, et les vagues aux oiseaux, et les hommes aux rires, et les rires aux sanglots. Il est vrai que souvent la mer se désenchante. Je veux dire en cela qu'elle chante d'autres chants que ceux que la mer chante dans les livres d'enfants. Mais les femmes toujours ne ressemblent qu'aux femmes, et d'entre elles les connes ne ressemblent qu'aux connes. Et je ne suis pas bien sûr, comme chante un certain, quel soit l'avenir de l'homme. La ville s'endormait, j'en oublie le nom.
sur le fleuve, en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait et j'en oublie le nom. Et vous êtes passée, demoiselle inconnue, à deux doigts d'être nue sous le lin qui dansait.
Pierre Judet de la Combe par d'Œdipe.
Le parvenu.
Œdipe prend au hasard une autre route. Il se trouve qu'elle mène vers la ville de Thèbes, sa ville natale. Et la catastrophe qu'il voulait éviter a lieu, précisément parce qu'il voulait l'éviter. Il croise un équipage lourd, royal, tiré par des pouliches. C'est le roi de Thèbes, Laios, avec ses gardes. Il se rend à Delphes pour consulter Apollon. On peut penser que Laios voulait savoir si l'enfant qu'il avait voulu supprimer il y a longtemps, à savoir Œdipe, était bien mort. C'est ce que disent certains auteurs. La rencontre se passe mal. Œdipe, évidemment, ne peut pas reconnaître Laios, son père, qu'il n'a jamais vu. Pour lui, ce n'est qu'un vieil homme. Le roi Laios, avec ses pouliches, son gros chariot royal et ses sbires, se trouve dans un passage étroit, nez à nez avec un jeune blanc-bec, qui est à pied, sans armes. Laios ne pouvait évidemment pas imaginer que c'était son fils. Le roi est arrogant. Il veut forcer le jeune homme à céder la place. Œdipe ne se laisse pas faire, c'est ce qu'il raconte.
Voici que, ensemble, le cocher et le vieil homme me poussaient hors du chemin. Et moi, de colère, je frappe celui qui m'écartait, le conducteur de char. Et le vieil homme, comme il voyait que je dépassais le chariot en m'avançant sur son côté, guetta le moment et me toucha de son double aiguillon au milieu du crâne. Inégal fut le prix qu'il paya. Frappé par mon bâton d'un coup ramassé que lui assène cette main, il tombe à la renverse, directement au milieu de sa voiture, et roule à terre. Je les tue tous.
Cet Œdipe n'a pas froid aux yeux et ne recule devant rien, c'est le cas de le dire. D'après la tragédie Laios, écrite par Eschyle, qui racontait sans doute cette histoire et dont il ne reste presque rien, il est possible qu'Œdipe, après la mise à mort de son père, se soit livré à un rituel sanglant, lécher le sang de sa victime et donc de son père, puis le recracher.
Il faut cracher et se purifier la bouche.
C'est ainsi qu'on pouvait se débarrasser de la souillure d'un meurtre. Cet Œdipe est un impatient très violent. En fait, il faut imaginer une sorte d'insolent de petite frappe, longtemps adulé chez elle, qui prend ses aises. Un petit branleur, irascible, tout l'inverse d'un héros tragique et profond tel qu'on se l'imagine, bien à tort. Pier Paolo Pasolini l'avait bien compris, en choisissant Franco Chigi, un de ses acteurs favoris, si vrai dans ses rôles de voyou de banlieue, pour jouer Œdipe dans son film de 1967, Edipo Re.
Chi se lo sarebbe mai immaginato? E nessuno ha coraggio di ricacciarla in fondo al suo abisso. Anche se chi ci riesce diviene marito di Giocasta, la regina di Tebe. Così la nostra città è finita. Tutti se ne vanno.
Paul Venn, historien.
Prenez Œdipe, le malheureux est parfaitement innocent. C'est en toute innocence que, rencontrant un malotru sur la route, il le tue, pratique usuelle à l'époque. C'est en toute innocence que, trouvant une reine à épouser, il l'épouse. Il n'est pas obligé de savoir que l'homme qu'il a tué sans le savoir est son père, et que la femme qu'il épouse, chose qu'il ignore, est sa mère. Ça nous prouve une chose sur la vie, mais une chose qui relève des sagesses de tous les jours. C'est qu'il nous arrive que, juste au moment où nous croyons faire une chose qui va nous rapporter beaucoup, épouser une reine, ou qui est une chose qui est juste, tuer un malotru qui vous encombre la route, eh bien, au moment où nous sommes contents d'avoir fait une chose, c'est notre malheur que nous avons fait. Autrement dit, que les dieux semblent se plaire à nous mettre dans une situation impossible, fatale, au moment même où ils paraissent faire notre bonheur.
Œdipe arrive, s'impose, n'a peur de rien, tant pis pour la casse. Ce sera encore plus vrai avec la suite. Œdipe s'approche de Thèbes. La ville est en plein désastre. Ces jeunes gens n'arrêtent pas de disparaître. Ils sont dépecés par un monstre qui a pris position près de la ville. Il s'agit de la Sphinge. On dit parfois que c'est Héra, l'épouse légitime de Zeus, la déesse qui défend sans relâche l'institution du mariage, qui est à l'origine de la Sphinx. Elle aurait infligé ce fléau aux Thébains parce qu'ils n'ont pas puni Laios, qui a trahi les lois du mariage en aimant un jeune homme. C'est pour cela que la Sphinx prendrait plaisir à persécuter les jeunes gens. Cette Sphinx, ou cette Sphinx, on peut dire comme on veut, est un être composite, multiple. Euripide l'a décrit dans sa pièce Œdipe, dont nous avons quelques fragments complétés par un papyrus trouvé en Égypte et publié dans les années 1960. C'est une jeune fille souillée de sang, avec une crinière bouclée, une queue et des pattes de lion. Des ailes sont accrochées à ses épaules. La sphinx pouvait rester assise, les ailes repliées. Parfois, elle les déployait en grand. Les ailes étaient alors tantôt brillantes, tantôt sombres. Elles changeaient selon la lumière du ciel, selon le temps qui passe.
Si elle le tournait vers les chevaux du soleil, le dos de la bête avait l'aspect de l'or. Tourné vers la vapeur des nuages, il renvoyait comme un arc-en-ciel un éclat sombre.
La sphinx est changeante, instable, contradictoire. Elle passe d'une couleur, d'un aspect à l'autre. Ce n'est pas étonnant pour un monstre, dont l'ancêtre lointain a été, comme pour beaucoup de monstres informes et hybrides, le dieu de la mer, le dieu Pontos. La mer est par excellence le lieu dangereux de tous les changements, de toutes les instabilités. La sphinx chante des vers, comme Homère et aussi comme l'oracle de Delphes, qui répondait en vers chantés à ceux qui l'interrogeaient. Elle chante une énigme. Si le jeune homme à qui elle pose son énigme ne trouve pas la solution, elle le tue, le déchire, et elle laisse ses membres épars sans même les manger, ça ne l'intéresse pas. Ce traitement de ses victimes est en rapport avec l'énigme qu'elle pose. L'énigme que pose la sphinx nous est connue. Quel est l'animal qui a d'abord quatre pattes, puis deux, puis trois? Nous avons une version en vers, peut-être ancienne, de cette énigme.
Il y a sur Terre un être bipède et quadrupède, qui n'a qu'une seule voix. Il est aussi tripède. C'est le seul à changer de stature parmi tout ce qui bouge sur Terre, ou en haut, dans l'azur, ou dans la mer. Quand il va en s'appuyant sur plusieurs pieds, la force de ses membres est la plus faible.
Œdipe va montrer ce qu'il sait faire et gagner gros. Jeune homme qui n'a pas froid aux yeux, il ne se laisse pas impressionner et trouve la réponse. L'être qui va sur quatre, puis deux, puis trois pieds est l'homme, l'être humain, Anthropos. Il se déplace sur ses pieds et ses mains à quatre pattes quand il est tout petit, puis se redresse et marche sur ses deux pieds. Vieux, il s'appuie sur une canne, il a donc trois pieds. Un poème donne la réponse d'Œdipe.
Écoute, même si tu ne le veux pas, oiseau de malheur, muse des morts, ma voix mettra fin à ta calamité. Tu as dit l'homme. Comme il se déplace sur la terre, il naît avec quatre pieds, tout bébé au sortir du ventre. Quand il vieillit, il s'appuie sur un troisième pied, son bâton, l'échine pesante, fléchie par la vieillesse.
L'homme, disent les vers de l'énigme, est le seul animal sur terre, dans les airs ou dans l'eau, qui change de forme au cours de sa vie. Mais en fait, il ne change pas, c'est toujours l'homme, quelle que soit son apparence. L'homme est un, toujours lui-même. Il ne faut pas se laisser impressionner par le fait qu'il n'a pas toujours le même nombre de pieds quand il est enfant, adulte ou vieux. Ceux qui ne trouvent pas la solution, à savoir l'unité fondamentale de l'homme, sont déchirés, mis en pièces par la sphinx, qui laisse bien visibles leurs membres, pieds, jambes, bras, dispersés sur le sol. Ils n'ont pas reconnu ce qui faisait leur unité comme être vivant. C'est quand même étrange que la bestiole qui pose l'énigme, dont la réponse est la permanence, l'identité d'un même être sous ses différents aspects, soit un être sauvage, cruel, un monstre réellement pluriel, changeant, sans forme fixe. Et il est frappant que l'être qui trouve cette réponse, l'homme, comme être toujours identique à soi, ne sache en fait pas du tout qui il est. Non pas en général comme être humain, mais comme individu.
Jean-Pierre Vernant, helléniste.
La sphinx comme un cas de ce qui est la catégorie du monstrueux en Grèce. Qu'est-ce que j'appelle le monstrueux ? C'est le fait qu'un même être rassemble dans sa figure, dans sa personne, pourrions-nous dire, des éléments qui sont incompatibles. Humains, bestiaux, terrestres, aériens, de douceur, de violence, l'érotisme, la mort. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, me semble-t-il, les figures monstrueuses dans le domaine grec, ou dans certains secteurs du domaine grec, soyons prudents. C'est une façon plastique de traduire le chaos, l'absence d'ordre, l'absence de délimitation rigoureuse des plans, des domaines, des secteurs de l'existence. Si elle est d'une certaine façon une figure de l'incompatibilité ou du désordre pur ou de la jonction de ce qui doit être distinct, on comprend mieux qu'elle intervienne dans une histoire où justement un des grands problèmes, ça va être la jonction de ce qui doit être disjoint, c'est-à-dire l'inceste.
Œdipe est habile, savant, il sait raisonner. Et face à la Sphinx, il sauve ainsi sa vie. Mais il n'a pas la connaissance de lui-même, de son histoire. Il se trompe sur l'identité de ses parents. Cette histoire sanglante fait voir qu'il y a au moins deux types de savoir. Un savoir général, qui porte sur les êtres en général, comme l'homme. C'est un savoir de type conceptuel ou philosophique, qui définit les choses. Et il y a un autre savoir, qui porte au contraire sur ce qu'il y a de plus particulier, individuel, sur l'origine, les parents, sur l'histoire d'une personne, comme Œdipe. Ces deux savoirs sont très différents. On peut être très fort pour l'un, le savoir général, comme les Œdipe, et totalement ignorant, nul, pour le second, le savoir qui porte sur soi-même, comme Œdipe. Ça va être dur pour Œdipe. Son ignorance sur lui-même, sur son origine, ne pourra pas durer. Précisément parce que c'est quelqu'un qui a la tête logique, qui sait résoudre les énigmes. Il voudra à tout prix savoir qui il est. Il va y arriver. Mais ça va le perdre. Nous verrons cela la semaine prochaine.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Pierre Judet de la Combe parle d'Œdipe.
Le jouet des dieux.
Qu'est-ce que va faire Œdipe ?
Jean-Pierre Vernant, helléniste.
Il tue son père, mais se contente pas de le tuer, il prend sa place. C'est-à-dire, il s'identifie avec son père. Lui, l'homme à deux pieds, devient identique à ce qu'était l'homme à trois pieds. Pourquoi ? Parce qu'il est en même temps le fils de sa mère et le mari de sa mère. Et en même temps, la tragédie le dit de la façon la plus nette, il est en même temps le père et le frère de ses enfants. Il est donc en même temps à deux, à trois et à quatre pieds. Œdipe, dans sa personne, dans cette espèce de recherche angoissée de son origine, flanque une pagaille absolument effroyable, est un être chaotique, il est ce monstre dont parlait la Sphinx, quel est l'être qui est en même temps à deux, à trois et à quatre pieds, qui est n'importe quoi.
Cette aventure de la Sphinx ajoute un sens au nom d'Œdipe, Œdipus. Son nom ne veut plus simplement dire l'homme aux pieds gonflés. Il commence à signifier aussi celui qui s'y connaît en histoire de pieds, savant en pied. En effet, la première partie du nom, Œdipe, se met après cette histoire à rappeler le verbe grec « je sais, oïda, oïdipus ». Œdipe est celui qui sait résoudre les questions de pied, un podologue, expert, averti. Les noms propres disent bien le destin des gens, et parfois, comme ici, avec de l'humour. Œdipe a vaincu la sphinge. Il fait disparaître le monstre, on ne sait pas bien comment, ou bien d'un coup de bâton, ou bien la sphinge se tue elle-même en se jetant du haut d'un rocher. Ce qui reste à expliquer, car elle avait des ailes. En tout cas, elle disparaît. Et maintenant, juste un petit détour comique. La sphinge n'est pas seulement une créature de tragédie. On pouvait être plus fort qu'elle par le rire, en se moquant d'elle. Une image peinte sur un vase ancien du 4e siècle avant Jésus-Christ, peut-être inspirée d'une pièce de théâtre comique, montre un vieux satyre face à la sphinge. Dans sa main gauche, le satyre tient un sceptre, pour montrer qu'il n'est pas n'importe qui, qu'il faut le prendre au sérieux et l'écouter. Dans la main droite, il tient un petit oiseau. C'est lui qui pose une question, pas la sphinge. Il lui dit quelque chose du genre
« Dis-moi, terreur, l'oiseau que je tiens dans ma main droite, il est vivant ou il est mort ?»
Cette fois, c'est la sphinge qui est coincée, prise au piège. Si, comme d'habitude, le satyre est farceur, enfin, pas pour l'oiseau, la sphinge ne pourra que se tromper. Si elle répond « vivant », le satyre étouffera l'oiseau avant d'ouvrir la main. Si elle répond « mort », le satyre ouvrira la main sans tuer l'oiseau. Comme quoi, mieux vaut ne pas être toujours binaire. Revenons à Œdipe. Il est accueilli à Thèbes en sauveur. Commence des années de bonheur, d'une prospérité qui est restée très célèbre. À Thèbes, l'assassinat du roi Laios n'est toujours pas élucidé. Règne sur la ville un régent, qui est le frère de Jocaste, l'épouse du roi Laios, et désormais veuve. Ce régent s'appelle Créon. Son nom veut dire seulement « le puissant, l'homme de pouvoir ». Ce Créon donne sa sœur Jocaste à cet inconnu, Œdipe, qui vient de supprimer la sphinge et qui arrive en ville. Personne, évidemment, n'avait pu reconnaître en lui le fils de Laios. Œdipe épouse donc Jocaste, sa mère. La prophétie d'Apollon s'accomplit. Il a tué son père et il couche avec sa mère. Avec Jocaste, ou Épicaste chez Homère, Œdipe est fécond et fonde une belle famille. Ils ont deux fils, Éthéocle et Polynice, et deux filles, Antigone et Ismène. Parfois, ses enfants ne sont pas de Jocaste, mais d'une autre femme. C'est la réussite totale. Œdipe a libéré la ville de Thèbes du fléau qu'était la sphinge. Il a épousé la reine de Thèbes, il a fait des enfants, il est célébré en libérateur et il est devenu un roi glorieux, béni des humains et des dieux. Échille décrit ainsi son bonheur.
Quel homme fit pareil émerveillement chez les dieux qu'héberge la ville ou sur la grande place que fréquentent les mortels ? Qui fut honoré comme Œdipe autrefois, quand il débarrassa le pays de la mort en porteuse d'hommes ?
Mais Apollon, qui l'avait prévenu à Delphes, sans que Œdipe puisse comprendre, ne le lâche pas. La machine infernale va se mettre en route. Nous verrons la semaine prochaine cette seconde partie de la vie d'Œdipe, Œdipe le damné, après Œdipe le bienheureux.
Il faut que chaque génération joue son rôle pendant un certain temps à sa place et qu'elle soit suivie par la génération suivante, postérieure, au moment où il faut. Or, toute l'histoire d'Œdipe, ça va être que dans cette recherche de son origine, non seulement il va réaliser cette faute
épouvantable qui pèse sur toute la lignée.
C'est ce que vous appelez le rapport à la souillure ?
Oui. Toute cette lignée, qui se rattache aux origines de Thèbes, elle est souillée au départ par le sang qui a été versé, par les déviances. Et on peut dire que la pseudo-boiterie, le fait que l'Abdakos est le boiteux, l'Aios le gauche, que Édipe lui-même a cette jambe qui n'est pas exactement comme l'autre, indique cette absence de rectitude, de netteté, de pureté.
Mais avant de nous lancer dans cette histoire, une question se pose. Exactement comme pour l'énigme de la Sphinx. Cet Œdipe qui va s'effondrer, qui va connaître le pire, est-ce le même homme que l'Œdipe bravache, arrogant, le petit jeune, m'as-tu vu, à qui tout réussit ? Qu'est-ce qui reste d'un Œdipe à l'autre ? A-t-il radicalement changé en passant du bonheur au malheur ? Ou y a-t-il une permanence entre ces différents états ? Comme l'homme de la Sphinx reste le même, même s'il a 4, puis 2, puis 3 pieds. La question faisait débat. Un auteur de comédie, Aristophane, la reprend. Il s'en sert pour faire rire, tout en étant profond et sérieux. Dans sa comédie, Les Grenouilles, Aristophane nous transporte aux enfers. Une grande querelle s'est levée chez les morts. Le poète Euripide vient de mourir et veut éjecter le vieux Échille qui siégeait depuis des dizaines d'années sur le trône de maître de la tragédie chez les décédés. Euripide veut prendre sa place. Un concours est organisé. Le juge est le dieu Dionysos, le dieu du théâtre qui passait par là. Euripide veut montrer qu'il est le meilleur, tout fier. Il cite des vers de sa composition, et notamment le tout début de sa tragédie Antigone, dont il ne reste que quelques vers. Ce début parle d'Œdipe, de son destin. Échille se moque tout de suite de son rival.
Œdipe, au début, était un homme bien heureux.
Mais pas du tout, nom de Zeus. Mais un malheureux de naissance. Quand quelqu'un, avant de naître, s'est fait dire par Apollon, avant même d'exister, qu'il va assassiner son père, comment serait-il, au début, un homme fortuné ?
Puis il devint, au contraire, le plus misérable des mortels.
Mais pas du tout, nom de Zeus. Il n'a pas arrêté de l'être misérable. Et non, au tout début de son existence, en plein hiver, ils l'abandonnèrent dans un pot, pour qu'adulte, il ne devint pas meurtrier de son père. Puis il alla se perdre chez Polybe, avec ses pieds gonflés. Puis il épousa une vieille alors qu'il était jeune, et qui, en plus, était sa propre mère. Puis il s'aveugla lui-même.
Le dieu du théâtre, Dionysos, donne la conclusion.
C'était le vrai bonheur.
Florence Dupont, helléniste.
La tragédie, c'est un rituel pour pleurer ensemble. Et alors, pour pleurer ensemble sur des gens qui n'ont jamais existé. Donc voilà. Alors, si vous voulez, et à ce moment-là, vous dites, ces rituels pour pleurer ensemble qui forment une communauté de larmes, ben, ça existe. Ça existe dans d'autres cultures aujourd'hui.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de cet épisode sur le site de France Inter. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Lechen. La programmation musicale est de Thierry Dupin. Bonne journée sur France Inter.